When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Grosmaître, fondatrice et CEO de Goodness & Co, un nouveau type de conseil en gestion du changement qui aide les PDG et les dirigeants dans leur vision, leurs actions et leur gouvernance pour créer de la valeur et un impact à grande échelle. Je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte, Isabelle. C'est un vrai plaisir.
Merci Alice, c'est un plaisir partagé. J'ai beaucoup d'honneur à être ici.
Écoute, on en parlait juste avant. Tu vas devoir d'abord me parler de toi. Je pense que c'est important. Tu as un parcours exceptionnel. Tu es très inspirante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te reçois. Et j'aimerais comprendre ce qui t'amène aujourd'hui à aider, à accompagner ces dirigeants dans leur transformation et pour avoir plus d'impact positif.
Merci beaucoup Alice. D'abord, je ne suis pas sûre d'avoir un parcours exceptionnel, mais je peux raconter effectivement ce qui me guide dans mes choix, en fait, et qui m'a toujours guidée. Parce que c'est une constante, c'est la volonté de contribuer à un monde meilleur. Et mes proches te diront même, d'ailleurs, de changer le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré au fond de moi depuis toujours. Est-ce que c'est parce que j'ai une famille de scientifiques et que la science, c'est le progrès? Est-ce que, je ne sais pas, j'ai toujours eu envie de déployer mes ailes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a toujours animée. Et après, il y a plein de façons de contribuer à un monde meilleur. Plein de façons. Recevoir les gens, de partager ce qui se fait, etc. Il y a aussi, on peut œuvrer en politique, dans des assos, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai toujours cru au levier de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que d'abord, je crois que je suis une femme d'action. J'aime les mots, mais en fait, c'est surtout l'action qui m'anime. Et je crois dans la puissance extraordinaire des entreprises dans leur levier d'action.
Et alors, comment ça se matérialise justement? Comment tu as commencé déjà peut-être ton parcours?
Tout simplement, j'ai choisi d'œuvrer dans des entreprises qui contribuent à un monde meilleur. Donc, j'ai commencé par une entreprise qui s'appelle Boiron, dans l'homéopathie. Parce que justement, Boiron avait un projet d'entreprise dément, bien plus grand qu'elle. Et justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être. Ouais. C'est pourquoi une entreprise existe, bien au-delà de son activité. Et en fait, c'était ça, Boiron. C'est comment chaque médecin dans le monde entier, alors que c'est un petit laboratoire en termes de taille, comment chaque médecin dans le monde entier peut intégrer véritablement l'homéopathie dans sa pratique quotidienne pour davantage respecter les individus. J'ai toujours travaillé sur la santé des gens, la santé de la planète, en fait.
C'est génial. Et après Boiron ?
Après Boiron, j'ai rejoint un entrepreneur extraordinaire qui s'appelle Bruno Rousset, qui a œuvré avec un fonds qui s'appelle Evolem et qui avait notamment monté April. April, c'est une société d'assurance.
Qu'on connaît, je pense.
Et en fait, ça faisait à peu près 15-16 ans qu'il essayait à l'international sans arriver à se développer. Alors qu'il a un modèle extraordinaire en France, c'est un modèle, c'est un réseau d'entrepreneurs. Donc en fait, il le fait via de la croissance externe, donc par des rachats de sociétés. Il rachète plusieurs structures qui sont pertinentes dans son groupe et ensemble, on va plus loin. Et en fait, à l'international, on n'arrivait pas tellement avant à déployer. Et j'ai dit, moi, j'ai vraiment envie de déployer l'international. Et en fait, on a amené l'international de 1 à 20% de l'activité du groupe sur la santé des gens. Génial. La santé des gens mobiles en particulier.
Ah ouais. Ce sujet. Et après, tu n'as pas fait que de la santé, je crois bien. Tu as fait de l'agroalimentaire aussi.
Et oui. Et après, j'ai rejoint Danone parce qu'à l'époque, je ne sais pas quel âge j'avais. Je crois que j'avais entre 35 et 40 ans. Et je me suis dit, en fait, tout est possible. Je me suis dit que tout,
tout est
possible.
Toujours possible, même après 40 ans.
Mais quelque chose qui dit, en fait, quand tu es aligné, quand tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, eh ben, tu peux, en fait, déplacer des montagnes. C'était ça, en fait. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie d'impacter des centaines de vies, des milliers de vies, des millions de vies, des milliards de vies? Et je me suis dit à moi-même, ben oui, j'ai envie d'impacter des milliards de vies. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que d'intégrer une grande entreprise, puisque j'avais compris que ces grandes entreprises pouvaient changer la donne sur le monde, en fait, et impacter des milliards de vies. Et donc, j'ai choisi Danone, parce que j'avais lu le livre d'Emmanuel Faber, et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, et j'ai œuvré pour Danone, la santé par l'alimentation.
Ah ouais, donc c'est quand même ton fil conducteur, ça reste la santé. Hein. Et donc, Danone, tu as quitté Danone quand ?
Il y a 2 ans et demi.
Et bah pour monter, du coup, Goodness & Co.
Exactement.
On va venir voilà, au cœur du ça. Sujet, puisque j'imagine que du coup, nos auditeurs se disent, bah, alors c'est quoi ? Comment elle fait ? Et donc, tu me parlais de santé, mais j'imagine que là, tu es ouverte à plus de types de dirigeants, finalement, tout type de dirigeants, vu que tu veux continuer à avoir un impact exponentiel.
Bien sûr, et je n'ai pas travaillé que sur la santé.
Oui,
par
oui,
exemple,
finalement.
Danone,
bien sûr.
One Planet, l'aliment. One Health, c'est l'ensemble de la dimension... et en fait, pourquoi peut-être j'ai créé Goodness, c'est quelque chose qui est peut-être utile à partager, c'est la volonté toujours d'être drivé par le plus grand impact et de savoir que quand on a depuis toujours travaillé sur ces sujets, on a conscience des enjeux qui sont devant nous. On a vraiment conscience en fait. Donc ça peut faire très très peur. Et à la fois, moi pour limiter ma peur,
t'agis.
J'agis, voilà, exactement.
C'est une femme d'action. Mais oui,
c'est ça. Mais c'est aussi simple que ça.
Je me reconnais énormément dans ce que tu dis, ça me fait plaisir aussi, dans ta conviction ouais. pour accompagner les entreprises. En fait, inclure et transformer, ouais. pas forcément exclure. Alors ça, c'est aussi ça. C'est compliqué, ouais. hein, parfois. Ouais. Comment concrètement t'accompagnes ces dirigeants ?
Et avant de te répondre à ça, excuse-moi, ouais, je voulais te dire aussi pourquoi quand j'ai décidé, quel a été l'élément déclencheur. Ouais. Et en fait, en 2019, je ne sais pas toi comment tu as vécu 2019.
Alors, attends, c'est juste avant Covid, j'ai l'impression qu'il y a deux. Tu sais qu'il y a, il y a un avant et un après. Toi aussi, ça te fait ça ? Pas trop.
Pas trop sur, sur la Covid ?
Ouais, moi, c'est ça. C'est pour ça que 2019, ça remonte à loin. Et puis, tu sais, j'étais
au début de ma boîte. 2019, c'était le point de bascule. C'était avant, ah bah, mais c'était parce que, en fait, tu sais, quand ça fait des années, donc ça devait faire 20 ans que je bossais sur ces sujets, je sentais qu'on était en train d'arriver à quelque chose où c'était possible.
Ah bah, de toute façon, j'ai monté ma boîte en... J'ai recalculé, mais j'ai monté Alice & Co en 2019. Bah ouais, voilà. Bah voilà. J'ai quitté... ouais, voilà. Bah, c'est ça, t'as raison.
En fait, il y a une espèce de vague extraordinaire qui, j'avais l'impression, sur ce sujet, disait « c'est possible ». Chez Danone, ouais. par exemple, on était en train de changer un modèle à grande échelle. Et en fait, je discutais à midi avec une femme dirigeante géniale. Elle me disait, mais en fait, ce que vous avez fait en 2014, c'est ce que les entreprises font maintenant, en fait. Donc, il y avait une question d'être pionnier, d'arriver à montrer que c'était possible. À la fois, il y avait les premières grèves du climat de la jeunesse avec Greta Thunberg, 2019.
Tout à fait, c'est ça.
Il y avait, où tu sentais que la jeunesse en avait ras-le-bol du système et disait non, on va faire différemment.
Il y avait une montée de l'activisme.
Exactement, tu avais Yuka en France. Yuka, oui. Tu te rappelles ? C'était vraiment la bête noire des industriels parce qu'on donnait le pouvoir aux citoyens. Pour voter sur ce qui était vraiment bon pour eux, pour la santé ou pour la planète.
Mais Yuka, j'ai peut-être posé une question bête, mais j'entends moins parler. Maintenant, on voit surtout le Nutri-Score. Plus que Yuka, mais Nutri-Score, pareil, qui est un peu biaisé. Bon, on va peut-être en parler.
Bah, ouais, on peut en parler,
on peut en parler, mais parce que je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Par exemple, je suis italienne, donc huile d'olive, ouais. Tu connais. Peut être noté D, alors que c'est une très bonne huile d'olive. Ouais. Et à côté, tu vas avoir un paquet de chips qui est A. Mmh. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut réexpliquer, c'est que c'est par rapport aux autres produits de la même gamme que c'est un A. Sinon, c'est... Enfin, et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour le consommateur qui va se dire, bah, du coup, je vais manger des chips parce que c'est A.
Pas que, quand même. Non, pas que.
C'est vrai.
Mais pour en revenir à 2019, c'était, tu sais, un moment où tu as cette espèce de vague où tu sens l'activisme monter, où tu sens, que c'était maintenant...
Ouais.
Tu avais la première Business Roundtable aussi aux États-Unis où il y avait les 180 dirigeants des plus grandes entreprises qui s'étaient réunis et qui avaient dit on va bouger d'une économie actionnariale à une économie partenariale. C'était un énorme big bang dans l'économie et dans les acteurs de l'industrie. En fait, il y avait plein de choses qui étaient en train de se passer. Et donc, du coup, ben, comme en tout cas pour moi, quand tout, c'était une espèce de tsunami intérieur, parce qu'à la fois, je voyais que c'était possible, et à la fois, ben, par exemple, chez Danone, c'était très difficile. Les derniers bastions, en fait, quand on mène une transformation, les... Le début, c'est facile. Poser une vision, c'est facile. Oui. Commencer à démontrer que c'est facile. Après, le faire que ce soit le système et pas le truc à côté, c'est plus complexe.
Et puis, le faire infuser dans une entreprise aussi grande. Quand on a... Moi aussi, j'étais chez Carrefour. Oui, oui. Donc, on sait que c'est compliqué à bouger tout ça.
C'est ça, c'est ça. Donc, et en fait, à ce moment-là, j'avais été, en plus, dans mes rôles, j'étais élue par mes pairs coprésidente d'une organisation qui s'appelle le Consumer Goods Forum, où il y avait notamment Carrefour. Et c'est une organisation qui rassemble 400 boîtes et qui est dirigée par un conseil d'administration de 58 dirigeants. Donc, les dirigeants, par exemple, il y avait Alexandre Bompard de Carrefour, il y avait Emmanuel Faber, il y avait Jean-Paul Agon de L'Oréal. Puis, il y avait... C'était plutôt international. Après.
D'accord.
Et en fait, la première fois que j'étais à l'Asbord, c'était 2017. Je m'étais dit, génial, on va changer la donne au niveau mondial. On va impacter des milliards de vies. Parce que justement, ces dirigeants ont le pouvoir de changer les choses. Et la première fois que j'y suis allée, je dois dire que j'avais été... je ne sais pas si c'est une espèce de sentiment, c'était une espèce de...
Désillusion,
de tristesse, ouais. De colère, de tout était mélangé. Non, mais ce n'est pas possible. On ne va pas s'en sortir. Et en fait, au fur et à mesure des années, jusqu'à ce moment du board de novembre 2019, où la salle a littéralement basculé, où les leaders engagés qui étaient autrefois isolés, les Faber, etc., sont devenus une majorité.
Il y avait le fondateur de Patagonia ou pas?
Non.
Non. Ah. Il aurait été bien, lui, là-bas.
C'est sûr.
On l'aurait bien aimé.
Yvon Chouinard, c'est sûr.
Mais
Et du coup, ce jour-là, évidemment, ce n'est plus les pionniers qui sont habités par la cause, mais c'est des dirigeants qui avaient vraiment pris conscience qu'ils n'avaient plus d'autre choix.
Mais pas forcément par conviction, mais simplement même aussi par... obligation, oui, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Mais c'est parfois, ça. Parce que, tu sais, c'est des personnes souvent un peu plus âgées, donc qui sont challengées par leurs enfants à la table. Ça peut être pour la difficulté à recruter des talents, la difficulté à avoir des consommateurs qui, effectivement, reconnaissent leurs actions sur ces sujets. Enfin, et les investisseurs, il ne faut pas se leurrer, les investisseurs jouent un rôle très important dans l'évolution de ces sujets dans les entreprises. Et en fait, ce jour-là, la question n'était plus le pourquoi on gérait un peu ou pas à la folie, mais comment je peux le faire. Et je me suis dit, il n'y a pas de baguette magique, mais je crois qu'il y a des leviers pour le faire. Et je me suis dit, plutôt que d'être au service d'une équipe dirigeante, je vais être au service des leaders courageux qui sont prêts à faire bouger les lignes de leur système.
C'est trop chouette. Et in fine, tu vas infuser, ça va infuser forcément dans la direction.
C'est ça.
Et est-ce que toi, tu as vu, donc ça fait 2 ans et demi, c'est assez récent, mais ça va tellement vite, en fait, l'évolution et des réglementations et des prises de conscience. Et on le voit, hein, tu as vu la CSRD qui vient de tomber, forcément. Donc, est-ce que toi, tu as vu... je ne sais pas si c'est plus d'engouement, un changement aussi dans les demandes, si avant, ce n'était pas par obligation, plus par conviction, ou inversement. Parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question. Alors moi, je te dis ça, mais j'ai beaucoup de fonds de PDG à mon micro, hein, mais je ne les accompagne pas, je les écoute. Donc, je n'ai pas forcément les problématiques qu'ils se posent.
Moi, je crois que les leaders conscients sont aujourd'hui un mouvement. Parce que quand on est dirigeant d'entreprise, globalement, on a la tête plutôt bien faite. On a conscience de la pression des parties prenantes, et pas que de la réglementation, des parties prenantes au sens large. Les consommateurs, les collaborateurs, je ne sais pas si on partage ou pas à cette antenne tous les chiffres, mais 8 Français sur 10, par exemple, en France, attendent des entreprises qu'elles agissent sur ces enjeux-là. On a aussi une grosse pression de la part de collaborateurs, une grosse pression de la part des consommateurs. Donc, un dirigeant qui pilote une société, il a besoin de ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les leaders engagés sont devenus un mouvement et ne sont plus une niche.
Et est-ce que tu crois en l'entreprise régénérative? Je te dis ça parce que j'ai eu Julien Durand de Picture qui m'expliquait qu'ils allaient essayer d'aller au-delà d'entreprise contributive qui va juste vers le net zéro carbone en horizon 2030-2050, mais aller au-delà et régénérer massivement. Donc là, c'est un vrai engagement. Toi, tu le vois aussi
Alors en fait, je dis souvent que les entreprises, elles ont besoin de créer du sens et surtout de démontrer leur contribution à la société. D'ailleurs, je crois que seules les entreprises ayant un impact positif seront choisies par les gens. Collaborateurs, investisseurs, etc. Ça veut dire quoi, avoir un impact positif?
Oui, ah bah, c'est... C'est vrai.
Je te donne des grands traits, hein, c'est évidemment grossier de ma part. On peut être une entreprise de tabac, avoir un score RSE extraordinaire.
Bien vendu.
Pourquoi ? Parce qu'on a une politique d'achat responsable extraordinaire, qu'on s'occupe bien des communautés en local. On a aussi la possibilité véritablement de, par exemple, hein, et il y a des cas, je ne veux pas citer de l'entreprise, mais qui ont des politiques diversité et inclusion qui fait qu'aujourd'hui, dans leur comité de direction, c'est vraiment paritaire, homme-femme, par exemple, et ainsi de suite, plus diverses. Mais par contre, quelle est leur contribution à la société ?
Le cancer.
Elle est nette négative quand tu vois la santé publique et les coûts que ça génère. Donc ça, typiquement, ce n'est pas les sociétés nettes
régénératrices. En fait, il faudrait... Mais ça, tu vois, là, on pose... C'est bien parce qu'on parle justement, et c'est hyper... Enfin, moi, ça m'intéresse énormément. Ça veut dire qu'il faudrait transformer complètement des produits. Par exemple, on va se dire, on arrête le tabac, mais on va transformer l'entreprise. Parce que sinon, c'est chômage massif. C'est ça aussi le problème.
Je pense qu'il y a des entreprises, les entreprises qui prospéreront demain...
De France.
...seront les entreprises qui auront un impact positif. C'est-à-dire que... Ça, c'est ma conviction profonde. C'est-à-dire qu'en fait... elles vont contribuer, par leurs activités et leurs services, à un monde meilleur.
Oui, mais à quel horizon ? Parce que pour le moment, on continue. Là, le problème, c'est que la réglementation, on l'attend aussi là. Parce que tant qu'il y aura du tabac, donc il y aura aussi de l'addiction, bah, le consommateur restera là à acheter son addiction. C'est comme le
bien
jeu,
sûr,
l'alcool.
Bien sûr, on ne peut pas tout changer, ça c'est sûr, ça c'est évident. En fait, face à l'immensité des challenges... Personnellement, mais c'est un parti pris, en fait, Alice.
Oui, mais j'adore.
Moi, j'ai décidé de me concentrer sur les leaders courageux qui étaient prêts à jouer le jeu, à vraiment réinventer leur business model pour un monde meilleur.
Et donc, ils viennent te voir, ceux-là.
Où je vais les voir.
Où tu vas les voir. Et comment... Mais alors, j'imagine qu'eux sont convaincus. Donc, finalement, au-delà de les convaincre encore plus, tu n'as pas forcément ce rôle-là, c'est les accompagner.
C'est
concrètement,
ça. C'est ça.
Dans leur feuille de route, leur management, leur
c'est
tout ça.
C'est ça, comment on s'y prend, en fait. C'est souvent la même chose. Souvent, c'est un leader qui a compris, qui a conscience, qui l'incarne. Sinon, ça ne marche pas.
Hein. Bah,
ça ne marche pas. Et qui, la seule question qu'il nous pose, c'est comment je fais ? Comment je peux accélérer ? Comment je peux vraiment mettre ça en place ? Comment je peux avoir une croissance plus responsable ?
Hyper intéressant, surtout, je pense que j'ai beaucoup de dirigeants d'entreprise qui écoutent l'empreinte. Et je me dis que s'il y a des gens, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais ben là, pour le coup, ou une équipe. Mais je pense que, ou chaque grande femme, parce qu'il y a des dirigeantes aussi, hein, bien sûr. Ça m'amène une question. Est-ce que toi, tu as autant de dirigeants que de dirigeantes ou pas?
C'est une bonne question. Quand j'ai commencé, j'avais plus de clients dirigeantes.
Ouais. Et maintenant, ça s'équilibre ?
Ça s'équilibre,
mais parce qu'il y en a plus d'hommes que de femmes. Hein. C'est plus parce que la demande...
En fait, je pense que probablement... D'abord, il y a plusieurs choses. Je crois que les femmes osent davantage dire que ce n'est pas facile.
Et se confier, reconnaître, et se faire aider, en fait.
Exactement. Et donc osent ouvrir en disant comment je peux faire ? Comment je peux mettre en place la gouvernance nécessaire à cette transition ? Comment je peux... Après, il y a des hommes, heureusement d'ailleurs, des hommes extraordinaires aussi, mais ça demande une certaine formalité. Mais au début, en tout cas, c'est aussi les femmes. Et puis parce que je pense aussi qu'au-delà du sujet... entreprendre, c'est pas si facile. Démarrer de zéro, c'est pas si facile. On en parlait avant. Et que c'est des femmes qui m'ont davantage tendu la main.
C'est vrai. Mais je trouve qu'il y a une sororité.
Carrément.
Mais ça dépend aussi des âges. Quand on est plus jeune, on se tire dedans les femmes. On est dur les unes avec les autres. Hein. Je le voyais un petit peu. Il y a plus de compétition. Et très vite... les femmes, je trouve qu'il y a une forme de sororité
extraordinaire. Mais... Je suis d'accord avec toi et en fait, ça m'a beaucoup... Enfin, c'est d'ailleurs grâce à ces femmes que Goodness & Co. s'est développé très vite au début.
C'est génial.
Je peux donner deux exemples parce qu'ils sont publics.
Bien sûr.
Mes deux premières clientes, la première, c'est Marie-Sophie Obama,
qui est une amie. Coucou Marie-Sophie, je vais lui envoyer. Bah oui, okay, carrément. La présidente de l'ASVEL.
Ouais. Et donc, Marie-Sophie, la présidente de l'ASVEL, donc club de basket féminin, avec Tony Parker, qui incarne ces sujets-là et qui se disait, génial. Mais comment transformer mon modèle, etc. Et en fait, en 9 mois, elle le dit, hein, on a totalement fait évoluer le business model de l'ASVEL féminin. Et l'ASVEL féminin est devenu le premier club de sport professionnel à mission, avec des choses extraordinaires qui ont eu lieu pour aider chaque fille et chaque femme à devenir capitaine de leur vie. Donc ça, c'est la raison d'être. Mais on a aussi transformé le business model avec beaucoup d'actions en faveur de l'empowerment des femmes et des filles.
Et même pour elle, je pense que ça l'a... Tu te l'as peut-être même un peu coachée ou autre, non, j'imagine ? Accompagnée, on va dire, pas coachée, mais accompagnée.
On n'est pas coach, en fait. On dit ouais. Non, on est guide, on donne la méthodo, mais on donne aussi le courage, parce qu'on met en place souvent des instances de gouvernance qui encouragent le leader à aller dans la bonne direction.
Ah, c'est chouette, super.
Et une autre dirigeante dont je peux parler, puisque c'est public, c'est Marie Guimot, la présidente de KPMG.
D'accord.
Qui est une femme extraordinaire et qui, quand elle a pris la présidence, a dit « je voudrais aller vers une croissance responsable » et elle avait conscience que ça allait passer par une gouvernance beaucoup plus collaborative et inclusive. Et par exemple, on a mis des tas de choses en place comme un comité de mission, parce qu'ils sont devenus entreprises à mission, ouais. Mais aussi
je
comme...
Je vais les avoir dans l'empreinte. En fait, on a déjà enregistré l'épisode, mais il passera après le tien. C'est le dernier que j'ai enregistré, c'est KPMG.
D'accord.
Donc, c'est très drôle. Bon, okay. Il y a plein de...
Voilà, par exemple.
Ah ouais, non, génial. Et donc, toi, ton équipe grandit ou tu as pour vocation de rester petit et...
Non, mon ambition à travers Goodness & Co, c'est de ne pas rester petit, non.
D'accord.
Mon ambition, c'est de devenir une plateforme de référence en matière de transformation positive et de pouvoir vraiment œuvrer auprès des leaders les plus avancés, les plus éclairés, les plus engagés pour les aider à transformer leur modèle.
Et les connecter entre eux ou pas, ceux-là ?
Bien sûr. On a aussi Goodness & Co. On travaille avec plusieurs partenaires pour créer des collectifs de dirigeants pour les aider. Par exemple, la semaine dernière, il y avait Change Now. On a organisé 3 sessions, dont une sur le rôle des boards. On a fait venir 150 membres de conseils d'administration du monde entier pour travailler ensemble sur ces sujets. Et donc aujourd'hui, Goodness & Co. grandit. Et d'ailleurs, je recherche des talents extraordinaires qui ont envie de changer le monde.
C'est parfait, c'est un petit appel comme ça.
Voilà.
Et moi, alors, j'ai une dernière question parce qu'on essaye avec l'empreinte aujourd'hui de s'adresser aux jeunes. C'est des remarques qu'on a. En fait, les jeunes cherchent justement ces leaders. Donc, ils vont écouter l'empreinte pour essayer de comprendre ce qui se fait, ce qui se fait bien. Et puis, j'ai eu des retours comme quoi je ne posais pas assez de questions finalement. Donc, c'est quoi aujourd'hui ? Enfin, de questions, je n'ai pas fini ma phrase, de questions sur le sens, sur leurs convictions. C'est quoi, selon toi, être un leader inspirant aujourd'hui ? Thèse, antithèse, synthèse, vous avez 2 minutes.
C'est difficile.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile.
Un leader,
mais...
pour moi, le leadership aujourd'hui, c'est le leader utile, déjà.
Et qui, ouais.
Utile.
Oui, utile.
Utile.
C'est vrai. Ouais. Mais utile, ça veut dire beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. Mais tu me demandes de développer.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, utile, ça veut dire... Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire utile au monde pour contribuer à un monde meilleur. Je crois fondamentalement, sans sens, personne ne suivra. Sans une contribution sur quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est ça, une raison d'être, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Parce que je suis aussi une femme d'action et je crois que c'est vraiment important. Un leader sans action, ça ne marche pas.
Non, sinon, c'est un storyteller.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je crois au leader qui agit, je crois au leader qui... Et dans l'action, moi, je crois, en tout cas pour ma part, je crois que le leader inspirant est le leader qui agit et qui peut se tromper. Parce qu'en fait...
Au contraire.
J'aime les pionniers inspirants qui font bouger les lignes. Et en fait, c'est des gens qui, tous les jours, font des erreurs, tous les jours se trompent, tous les jours mettent le genou à terre. Mais en fait, c'est une caractéristique fondamentale du leader inspirant pour moi. C'est le leader qui agit avec toutes ses caractéristiques.
Puis ça le rend d'autant plus humain, en fait. On ne lui demande pas d'être un surhomme. Moi, je trouve que, au contraire, c'est de nos erreurs qu'on apprend le plus.
Ouais.
Donc
Et le dernier point, peut-être, Donc, leader utile, leader qui agit. Et la troisième chose, c'est je le vois. Parce qu'en fait, par rapport à mon expérience des sociétés dans lesquelles j'ai été, au CGF, et puis aujourd'hui, avec les dirigeants que nous accompagnons, que ce soit les maisons les plus avancées dans le luxe ou dans l'industrie agro-retail et dans d'autres domaines, je vois très bien, il y a une seule caractéristique entre les boîtes qui réussissent et les autres.
Vous avez dit ça.
C'est leur capacité à engager véritablement les gens autour d'eux. Et c'est donc à mettre en place des gouvernances beaucoup plus collaboratives et inclusives pour leur permettre de réussir. C'est que ça, en fait, qui marche. Le reste, tu peux avoir un leader extraordinairement visionnaire, extraordinairement visionnaire. Tu peux avoir, tu peux prendre les meilleures décisions du monde. En fait, on parle de transformation positive, de transformation du business model. Il faut que chaque, et ça ne passera que si chacun est acteur. Chacun, tes collaborateurs, mais tes partenaires qui peuvent t'aider, tes clients. On a parlé de Carrefour et Danone. Voilà, on a beaucoup œuvré ensemble, Carrefour et Danone, parce que, justement, on avait la possibilité de collaborer ensemble pour réussir ce changement. Et donc, à quel point tu mets en place des gouvernances beaucoup plus collaboratives et inclusives, ça, c'est vraiment majeur dans la réussite et donc, pour moi, dans le leader inspirant.
Super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ? Pour nos auditeurs,
j'aurais peut-être envie de dire que être, parce que j'imagine que les gens qui te suivent sont comme nous des leaders engagés, et donc j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seuls. C'est très important. C'est pas toujours facile en fait. Ce chemin, même, il est très difficile, je crois. Il y a un mélange de foi, de conviction, d'envie. Mais il y a quelque chose qui est vraiment fondamental. On a besoin les uns des autres et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Et surtout, vraiment, rejoignez les groupes de travail, les assos, les mouvements. Parce qu'il y a plein de mouvements qui sont extraordinaires d'acteurs du changement. Moi, c'est là où je puise mon inspiration, ma foi à nouveau, mon envie. Et dans les moments où je doute, j'ai besoin d'être dans ces mouvements pour m'aider et me dire que dans 10 ans, je pourrais regarder mes enfants dans leurs yeux et leur dire que j'ai tout fait à un moment où ça comptait vraiment.
Merci beaucoup, Isabelle.
Merci, Alice.
C'était tellement inspirant. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.